franceinter.fr.
Nous partons en Afrique du Sud, à la une de la science aujourd'hui, une nouvelle espèce découverte en Éthiopie. Deux mâchoires, quelques dents dénichées par des archéologues allemands et américains. Et voilà que notre arbre généalogique s'étoffe encore. Il serait non seulement contemporain de Lucie, donc âgé de 3,5 millions d'années, mais il aurait même peut-être cohabité avec elle, puisque ses restes ont été découverts à seulement 35 kilomètres de là où Lucie a été découverte en 1974. Pour en parler, José Braga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue, on est ravis de vous entendre. Vous êtes donc en Afrique du Sud où vous menez des fouilles en ce moment. Vous avez beaucoup travaillé sur un autre australopithèque, Littlefoot, découvert en Afrique du Sud. Alors, ce nouveau venu, comment il s'appelle d'abord, José Braga?
On l'appelle Australopithecus diremida. Donc, il a un nom un peu compliqué, je vous le concède. Et on ne lui a pas encore donné de petits surnoms. Ça ne devrait pas tarder.
Ça veut dire proche parent, hein, dans la langue de la phare, paraît-il. Alors, à quoi il ressemble par rapport à Lucie et justement Littlefoot?
Eh bien, écoutez, par rapport à Lucie, il présente les caractéristiques très robustes au niveau de ses mâchoires, c'est-à-dire que ses os sont très épais, bien que ses dents restent toutes petites, peut-être même pour certaines d'entre elles plus petites que celles de Lucie. Et donc, c'est ce caractère-là qui permet de dire que l'on a affaire à quelque chose de différent.
Voilà, comment quand on découvre un nouvel australopithèque, on choisit de faire une nouvelle espèce ou de le classer dans une espèce existante?
Eh bien, on recherche des caractères qui s'écartent de la variabilité que l'on avait jusqu'à présent échantillonnée. Et donc, justement, par rapport à l'espèce à laquelle appartient Lucie, qui s'échelonne en Afrique entre 4 et 3 millions d'années, eh bien, on a ces mâchoires robustes qui sont très épaisses et que l'on n'observait pas jusqu'à présent dans l'espèce à laquelle appartient Lucie. C'est la raison pour laquelle, eh bien, les chercheurs ont conclu à la présence d'une deuxième espèce.
Alors, on peut comme ça proposer une nouvelle espèce aussi facilement que ça, José Braga, juste avec une mâchoire?
Écoutez, c'est toujours très très délicat, effectivement, je vous le concède, mais on peut le faire, c'est-à-dire qu'on va utiliser un spécimen pour définir une sorte de portrait robot d'une espèce fossile, et ensuite, eh bien, cette identification, elle doit être confirmée par non seulement la découverte de spécimens supplémentaires qui vont venir corroborer, mais aussi par la définition de nouveaux caractères auxquels on peut accéder grâce à de nouvelles techniques, qu'il s'agisse de la chimie par exemple, ou de l'imagerie qui permet de regarder à l'intérieur des dents ou à l'intérieur des os.
Donc ça veut dire, José Braga, que plusieurs espèces d'homininés ont vécu au même moment, au même endroit, il y a 3,5 millions d'années. C'est une information importante?
Oui, c'est une information qui est essentielle et qui d'ailleurs n'est pas très surprenante, puisque quand on regarde d'autres groupes de primates qui sont apparentés à l'homme, je pense aux chimpanzés par exemple, ou d'autres groupes de primates plus éloignés, les babouins par exemple, eh bien on observe différentes espèces qui peuvent vivre au même endroit et au même moment. Donc pourquoi pas la même chose pour nos ancêtres.
Comment se passe une telle cohabitation alors selon vous? Plusieurs espèces donc au même endroit, au même moment?
Eh bien, elle se passe relativement bien, à condition que les espèces en question ne recherchent pas les mêmes sources alimentaires. Par exemple, on sait que un petit peu avant 2 millions d'années, eh bien, l'homme vivait, cohabitait avec un groupe de préhumains étroitement cousins avec l'homme, mais qui consommaient d'autres aliments que l'homme. L'homme consommait de la viande, alors que ce groupe étroitement apparenté à l'homme, que l'on appelle les paranthropes, eux consommaient exclusivement des végétaux.
José Braga, cette nouvelle classification donc, ne fait pas l'unanimité quand même dans le milieu scientifique?
Non, pas du tout, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, on n'a que deux spécimens. Et ces deux spécimens, pour pouvoir réellement, unanimement les attribuer à une espèce différente, il va falloir encore travailler non seulement à la découverte de nouveaux fossiles, mais à la définition de nouveaux caractères.
Mais les pièces à conviction sont nombreuses là dans ce secteur ou pas?
Pour l'instant, elles sont encore minces. Elles le sont beaucoup plus en Afrique du Sud, où, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, Littlefoot, mais aussi d'autres individus étroitement apparentés à Littlefoot, appartenant au même groupe, se trouvent être présents en plus grand nombre qu'en Afrique de l'Est. On trouve plusieurs dizaines d'individus, pour l'instant, en Afrique du Sud, qui permettent de confirmer le fait que Littlefoot appartient à une espèce différente de celle de Lucie. Et peut-être, d'ailleurs, assez proche de cette nouvelle espèce est-africaine que l'on vient de découvrir.
Et donc, le jeu maintenant va être de trouver l'espèce qui a engendré la lignée humaine, c'est ça, toutes les recherches maintenant?
C'est exactement ça, oui. si nous avons deux préhumains avant 3 millions d'années en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, la question est de savoir laquelle d'entre elles a donné naissance à l'homme et aux paranthropes que j'évoquais tout à l'heure après 3 millions d'années.
Lucie garde ses chances ou pas ?
Je pense que peu à peu, les chances pour, en ce qui concerne Lucie s'éloignent.
Aïe, aïe, aïe.
tout simplement parce que nous partageons avec les paranthropes des caractères très nombreux en commun et ces caractères sont présents sur cette deuxième espèce à côté de Lucie avant 3 millions d'années.
Merci José Braga. Australopithecus Dei Remeda, donc nouvelle espèce. Bon, c'est encore discuté, mais en tout cas, ça fait l'objet d'une publication d'Australopithèque. Merci beaucoup à vous et
merci.
Bonne fouille en Afrique du Sud.
Et bravo pour la prononciation.
Merci, on a répété. Merci Axel.
Merci, à demain Mathieu.
À demain. En attendant, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un nouvel exemple de fraude scientifique. Justement, en décembre dernier, une étude américaine expliquait qu'un entretien d'une vingtaine de minutes suffisait pour faire changer d'avis à un militant opposé au mariage homosexuel. Eh bien, la revue Science vient de retirer sa publication en raison d'irrégularités dans les données. Selon l'institut de sondage nommé dans l'étude, l'auteur les aurait inventées. Science va même plus loin en évoquant des récompenses académiques fantaisistes sur le CV du chercheur. Ce dernier a d'ailleurs réagi en présentant ses excuses et en assumant l'entière responsabilité de son acte. Une véritable catastrophe au sein de la faune du Kazakhstan. Plus de 120 000 antilopes saïga sont mortes ces dernières semaines. C'est plus d'un tiers de la population globale de cette espèce protégée, qui est facilement reconnaissable grâce à son museau allongé, ressemblant à une trompette. Selon les experts de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, les premières pistes orientent vers une maladie infectieuse nichée dans l'herbe de la région. Et puis à Hong Kong, les détritus ont maintenant un visage. Une agence de communication a développé un système permettant de retracer les propriétaires des ordures trouvées dans les rues. Intitulé le visage des détritus en français, donc, l'opération utilise les traces d'ADN retrouvées sur les mégots, les gobelets ou encore les bouteilles en plastique pour modéliser grossièrement la physionomie de celui ou celle qui l'a jeté. Les dessins sont ensuite placardés dans des lieux de forte fréquentation de Hong Kong pour dissuader les possibles futurs pollueurs.